Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'épidémie de pneumonie virale s'est encore accélérée aujourd'hui à travers le globe avec des bilans en forte hausse, notamment en Corée du Sud ainsi qu'en Iran, mais aussi 4 nouveaux pays touchés par l'épidémie et une 5e victime décédée ce matin dans le nord de l'Italie.
En Allemagne, la CDU a décidé ce matin de reporter la désignation de son nouveau président, candidat à la succession d'Angela Merkel à l'horizon 2021.
Oui, ce au lendemain donc d'un revers électoral cuisant, signe de la crise profonde que traverse actuellement le parti conservateur. 3 ans après le Penelope Gate qui, on s'en souvient, avait coulé la campagne présidentielle de François Fillon, le procès de l'ex-candidat à l'Elysée doit débuter cet après-midi. Enfin, alors que les débats sur la réforme des retraites ont repris aujourd'hui pour une 2e semaine devant l'Assemblée nationale, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Erwan Balanant, député Modem du Finistère. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il était à la mi-janvier justement aux côtés des cheminots grévistes pour afficher son soutien total à cette lutte et surtout à sa dimension collective. Mais c'est moins de la réforme des retraites que nous allons parler que des jardins, du paysage comme une expérience sensible et politique. Comment associer le jardin, la révolution et la communauté humaine à partir de 12h55, donc dans une vingtaine de minutes, sera avec nous le philosophe Jacques Rancière.
Merci et à tout à l'heure. Qu'il s'agisse de ces millions de Chinois en quarantaine vivant comme des pestiférés ou de ces centaines de passagers contaminés dont la croisière s'est transformée en cauchemar sanitaire, voilà plusieurs semaines que l'épidémie de coronavirus multipliait déjà les scénarios de véritables films catastrophes. Or, depuis ce week-end, la propagation rapide de l'épidémie, dont nombreux sont ceux à redouter qu'elle ne se transforme en pandémie, a vite fait de faire souffler sur la planète un vent de panique générale reflétant un état de quasi-paranoïa eschatologique. La Corée du Sud, tout d'abord, a proclamé l'état d'alerte maximum après être devenu le plus important foyer de l'épidémie en dehors de la Chine. De son côté, l'Iran est devenu hier le pays où le nouveau coronavirus a fait le plus de morts hors de Chine. Enfin, en Italie, premier pays à enregistrer le décès d'un Européen victime du virus, plusieurs localités ont été mises en quarantaine. Alors, sans céder pour autant à la psychose, force est de constater que le fléau continue donc à se répandre de manière spectaculaire de l'Asie à l'Europe, en passant par le Moyen-Orient. Ce matin, les premiers cas ont été détectés au Koweït, à Bahreïn, en Irak, mais aussi en Afghanistan. Et c'est ainsi, par exemple, que le régime chinois, tenu aujourd'hui pour responsable de cette désastreuse épidémie, a non seulement reconnu hier des lacunes dans la réponse apportée, mais également renoncer finalement ce matin à alléger les mesures de quarantaine. En clair, et contrairement à ce qui avait été annoncé quelques heures plus tôt, les non-résidents en bonne santé confinés depuis un mois à Wuhan ne seront pas autorisés à quitter la ville. Les précisions de notre correspondante Dominique André.
Les mesures d'assouplissement de la quarantaine à Wuhan ont été prises sans l'autorisation du gouvernement local. Elles sont annulées. Les nouvelles autorités de la province du Hubei, qui est le berceau de l'épidémie, ont donc réagi peu de temps après l'annonce de la ville, qui avait pourtant publié toute une série de nouvelles dispositions pour permettre à une partie de la population de Wuhan, excepté à ses habitants, de pouvoir circuler à nouveau. L'annonce a été officiellement déclarée invalide. Cette confusion peut surprendre. La situation dans la région reste préoccupante. Hier, 150 morts ont été enregistrés en Chine, dont 149 dans le Hubei. Xi Jinping a lui-même reconnu hier que le coronavirus constituait la plus grave urgence sanitaire qui frappe la Chine depuis la fondation du régime communiste en 1949. Aujourd'hui, de hauts responsables sont réunis dans la capitale chinoise pour décider du report de la session parlementaire annuelle qui se tient habituellement place Tiananmen. Si elle était reportée, ce serait une première depuis la révolution culturelle.
Et ce matin, effectivement, le régime communiste a donc décidé de reporter cette session annuelle qui devait s'ouvrir le 5 mars prochain, une première donc en 3 décennies. Enfin, le pays a également décidé d'interdire complètement le commerce et la consommation d'animaux sauvages. Et puis, si la crainte, je l'évoquais tout à l'heure, saisit donc un peu plus encore l'Europe, notamment, c'est aussi parce que l'Organisation mondiale de la santé dit désormais s'inquiéter de la difficulté à contenir l'expansion de l'épidémie. À ce titre, l'exemple de l'Italie est évidemment symptomatique puisque depuis le décès vendredi dernier d'une femme de 75 ans, les autorités n'ont toujours pas réussi à identifier la source de l'épidémie. Enfin, ce matin encore, une 5e personne est morte des suites du nouveau coronavirus enregistré dans la péninsule. Bruce de Galzin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Piacenza, non loin de cette zone rouge donc où se concentrent de nombreux cas de coronavirus. Alors, dans cette longue litanie, on pourrait encore ajouter que la bourse de Milan, à l'image d'ailleurs des autres places européennes, a violemment plongé de plus de 4% ce matin. Bref, on a le sentiment, Bruce, que le coronavirus est en train de totalement tétaniser le nord de l'Italie.
Et ce n'est pas qu'une impression, hein. L'économie notamment va souffrir et cela se voit au niveau touristique. Le carnaval de Venise annulé, c'est un signal envoyé au monde entier. Le Duomo fermé à Milan, pareil. Les touristes ne viendront pas le visiter. Les hôtels font déjà remonter de mauvais chiffres. Plus de réservations et même des annulations de dernière minute. Andrea tient un hôtel à Piacenza, à 15 km de la zone rouge, la zone isolée au sud de Milan. Toutes ces réservations pour des réunions ou des congrès ont été annulées.
Il y a un peu de psychose et logiquement les premiers à le ressentir ce sont les entreprises. Dans mon hôtel, tous nos clients ont annulé les événements prévus, les réunions, les meetings, pour toute la semaine. Et beaucoup de salariés sont en quarantaine parce qu'ils habitent dans les zones touchées. Ici, nous sommes très près du foyer de coronavirus, la zone rouge. Et donc, il y a beaucoup d'employés qui ne peuvent plus aller travailler puisqu'ils sont en quarantaine chez eux, à la maison.
Des mesures de précaution donc, hein, et ici les contrôles se multiplient. En Lombardie, désormais 165 personnes sont affectées par le coronavirus. Et c'est en Lombardie aussi hein, qu'il y a eu le plus de morts, 4 sur 5. Deux hommes de 84 et 88 ans viennent de succomber au virus. Et c'est tout de même la spécificité hein, du coronavirus. Tous ceux qui en sont morts en Italie avaient autour de 80 ans et étaient atteints d'autres pathologies, et notamment un cancer pour l'une des victimes, une femme morte hier.
Merci Bruce de Galza en direct donc de Piacenza. Comme attendu en Iran, les conservateurs ont revendiqué hier la victoire aux élections législatives organisées vendredi dernier, marquée notamment par un fort ressentiment populaire contre le président modéré Hassan Rouhani, au moment même où le pays traverse une grave crise économique, mais plus encore, si les premiers résultats partiels traduisent en effet une victoire sans appel des principalistes, appellation qui regroupe donc toutes les tendances du camp conservateur jusqu'au plus ultra, le plus significatif reste sans doute le taux de participation, 42,57%, soit le plus faible jamais enregistré pour un scrutin de ce type depuis l'avènement de la République islamique en 1979. En Irak, plongé dans la crise politique la plus grave de son histoire récente depuis qu'une révolte populaire inédite réclame le renouvellement complet de la classe dirigeante, le premier ministre désigné Mohamed Alaoui a convoqué pour ce lundi un vote de confiance au Parlement, un vote qui s'annonce loin d'être acquis. Tout d'abord parce qu'une bonne partie des députés sunnites minoritaires ont d'ores et déjà annoncé qu'ils boycotteraient cette séance. Ensuite, parce que les Kurdes, eux, font encore planer le doute sur leur participation. Enfin, s'agissant cette fois-ci des grands blocs chiites majoritaires, ils appellent bel et bien à la tenue de ce vote, sauf que les atermoiements ces dernières semaines de leur leader, Moqtada Sadr, ont ébranlé les esprits jusque dans les rangs de ses partisans. Et quand bien même le turbulent et versatile ex-chef de milice a subitement retiré ce matin son soutien aux manifestants anti-pouvoir, eh bien, rien ne dit qu'il réussira pour autant à mobiliser. Donald Trump a débuté aujourd'hui en Inde une visite d'État de 2 jours. Le géant d'Asie du Sud lui a concocté un accueil haut en couleur avec notamment un meeting géant aux côtés du Premier ministre Narendra Modi, suivi d'un pas de deux soigneusement chorégraphié lors d'une escapade au Taj Mahal. L'occasion donc pour les deux hommes de mettre en scène leur alchimie personnelle dans un contexte de friction commerciale causée par leur protectionnisme respectif, même s'il n'a pas encore acquis l'ampleur de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Voilà plusieurs mois en effet que Washington et New Delhi se livrent un bras de fer autour de leurs échanges de biens et services. Avis de tempête politique en Allemagne. Selon les premiers résultats provisoires, la CDU d'Angela Merkel a enregistré hier l'un des pires résultats de son histoire aux élections locales de Hambourg, largement remporté par les sociaux-démocrates du SPD. Les Verts, en forte progression, décrochent la deuxième place. Quant à l'extrême droite de l'AFD, bien qu'en recul 5 jours après l'attaque raciste de Hanau, elle parvient à se maintenir in extremis. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et tous.
Vous êtes en direct de Berlin, on parle déjà de l'un des pires scores donc de l'après-guerre pour le Parti conservateur. Connaît-on ce matin, Ludovic, les résultats définitifs de ces élections?
Non, pas du tout Thomas, on est toujours dans l'attente d'un recomptage des voix dans un quartier du nord de Hambourg où les voix des Verts ont été attribuées par inadvertance aux libéraux du FDP, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour ce parti. Il pourrait être tout simplement éjecté, ne plus siéger du tout dans cette région. Le FDP paye ici sans doute ce qui s'est passé en Thuringe il y a une quinzaine de jours, quand les conservateurs de la CDU, pour la première fois alliés à l'extrême droite et aux libéraux, ont fait élire un membre du FDP à la tête de cette région. La CDU en paye aussi le prix. Ce qui s'est passé en Thuringe n'a pas aidé, a déclaré le numéro 2 du parti à Berlin. La CDU perd près de 5 points, Thomas, par rapport au précédent scrutin d'il y a 5 ans, en se faisant devancer par les Verts, ce qui maintiennent leur bonne dynamique.
Alors ce revers électoral au Parlement régional de Hambourg n'est qu'un exemple parmi d'autres en réalité de l'affaiblissement du parti d'Angela Merkel. La CDU n'a d'autre choix aujourd'hui que de clarifier son profil politique dans un paysage de plus en plus morcelé où les majorités deviennent à tous les niveaux difficiles à composer. C'est ainsi par exemple, vous l'évoquiez, que le mouvement est aujourd'hui secoué en interne donc par une crise sur la question des alliances avec les extrêmes tant à droite qu'à gauche d'ailleurs. Enfin, le parti conservateur devait dévoiler aujourd'hui qui il compte porter à sa tête et comment il envisage donc de préparer l'après-Merkel à l'horizon 2021. Or, la décision, Ludovic, a finalement été reportée.
Oui, preuve que la question divise au sein même de la direction de la CDU. Faut-il remplacer la dirigeante démissionnaire Annegret Kramp-Karrenbauer par une personne ou par plusieurs personnes? Cette dernière solution semble la plus probable car elle permettrait de reporter à la fin de l'année la désignation du candidat à la chancellerie pour ne pas retomber dans le même travers que ces 14 derniers mois avec AKK. Annegret Kramp-Karrenbauer ne parvenait pas seule dans l'ombre d'Angela Merkel à se faire respecter à l'intérieur du parti. Une équipe de direction aurait donc le mérite d'être transitoire et d'éviter les luttes fratricides avec, c'est une information que l'on a apprise ce matin, la charge d'organiser un congrès extraordinaire le 25 avril, dans deux mois donc. Les candidats possibles à la chancellerie pourront alors commencer à faire campagne jusqu'au mois de décembre. D'ici là, le parti doit clarifier plusieurs questions, notamment ce qui s'est passé encore en Thuringe la semaine dernière, où après avoir voté comme l'extrême droite, c'était déjà inédit, eh bien nouvelle première fois il y a quelques jours, la CDU a cette fois soutenu l'extrême gauche, Die Linke. De quoi, Thomas, faire perdre le Nord aux électeurs conservateurs allemands qui aiment par nature et plus que tout la stabilité et l'ordre.
Merci Ludovic, pied tenu en direct de Berlin. Dangereux propagateur de secrets d'État ou héros traqué de la liberté d'informer, à 48 ans, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, affronte à partir d'aujourd'hui à Londres une procédure judiciaire cruciale. La justice britannique doit en effet examiner la demande d'extradition des États-Unis qui souhaitent le juger pour espionnage. En l'occurrence, la justice américaine lui reproche d'avoir diffusé, c'était il y a 10 ans maintenant, plus de 700 000 documents sur les activités militaires et diplomatiques de Washington sur sa plateforme Wikileaks. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Celui qui fait figure donc aujourd'hui d'ardent défenseur d'une transparence controversée va donc s'efforcer, Antoine, de convaincre la justice britannique de refuser de l'extrader vers les États-Unis où il risque jusqu'à 175 ans de prison.
Et les représentants de l'administration américaine ont d'ailleurs déjà donné le ton dès l'ouverture des débats ce matin. Ce n'est pas parce que vous êtes journaliste que vous avez le droit de violer la loi. Voilà ce qu'ils ont dit. Des avocats qui tentent au maximum de faire apparaître Julian Assange comme un justiciable, comme les autres. Il s'agit, disent-ils, d'une accusation criminelle ordinaire. Toute personne qui tente d'obtenir un accès non autorisé à des données informatiques du ministère de la Défense est coupable, quelles que soient ses motivations. Pas question donc d'attaquer frontalement la liberté de la presse. Les représentants de l'administration américaine mettent en avant le risque que Julian Assange a fait prendre, selon eux, aux hommes et aux femmes qui renseignent les États-Unis. Leurs noms apparaissent dans les centaines de milliers de messages et dossiers diplomatiques publiés par Wikileaks en 2010 et 2011. Il y a donc un danger. Pourtant, disent les défenseurs de Julian Assange, le gouvernement américain reconnaît qu'aucun de ses informateurs n'a été victime d'agression ou de menace. Des défenseurs qui sont regroupés ce matin devant la prison de Belmarsh, prison dont Julian Assange est sorti pour faire quelques mètres et se rendre dans la salle du tribunal. Assis à l'arrière avec des lunettes de vue, une veste grise, un sweatshirt, un t-shirt blanc, il n'a pour l'instant pas pris la parole. L'audience morcelée va durer plusieurs mois et les débats viennent d'être suspendus à l'instant. Ils reprendront cet après-midi.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Le procès s'annonce aussi retentissant que fut la chute de celui qui se présentait alors comme chantre de l'intégrité et auquel l'Élysée semblait promis 3 ans après l'éclatement du Penelope Gate qui avait pulvérisé la campagne présidentielle de François Fillon. Le temps du procès est enfin venu. L'ex-premier ministre, son épouse et l'ancien suppléant de celle-ci sont attendus d'ici une heure au tribunal de Paris pour répondre des soupçons d'emploi fictif, recel et complicité d'abus de biens sociaux. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place. Alors avant de détailler avec vous, Antoine, les enjeux de ce procès dont beaucoup redoutent qu'il ne réveille les pires fantômes de la vie politique française, peut-être faut-il d'abord préciser que ce procès pourrait connaître un faux départ en raison de la grève des avocats contre la réforme de leur régime autonome de retraite.
Effectivement, des avocats qui ont bloqué jusqu'à midi environ les entrées du palais de justice. Néanmoins, l'audience doit commencer dans un peu moins d'une heure. Rappelons que trois personnes comparaissent dans ce procès. François Fillon, tout d'abord, pour, la liste est longue, détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, complicité de détournement de fonds publics, recel de détournement de fonds publics, recel d'abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Pénélope Fillon pour complicité de détournement de fonds publics, recel de détournement de fonds publics, recel d'abus de biens sociaux, recel d'escroquerie aggravée. Marc Joulot, le suppléant de François Fillon, qui avait lui aussi engagé Pénélope Fillon comme assistante, lui, détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. À noter que dans cette affaire, une personne a déjà été condamnée, Marc Ladret de la Charrière, dans une procédure de plaidé coupable, le patron de la société Fimela qui avait recruté Pénélope Fillon la revue des Deux Mondes comme conseillère littéraire a écopé de 8 mois de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende pour abus de biens sociaux. Deux des enfants des époux Fillon vont également comparaître, mais comme témoins assistés, ils avaient été recrutés par leur père comme assistants parlementaires. Début donc de l'audience dans un peu moins d'une heure. Elle commencera par l'examen de la demande de renvoi des avocats de la Défense. Demande en lien avec le mouvement de grève. Cela devrait durer moins d'une heure et demie, et si cette demande aboutit, ce qui est fort probable, eh bien l'audience sera suspendue et le procès ne débutera réellement que mercredi.
Merci Antoine Maret en direct du tribunal de Paris ainsi qu'à Jérémy Tuil pour les moyens techniques. Le ministre des Finances Bruno Le Maire rencontrera cet après-midi le prince héritier d'Abu Dhabi Mohamed Ben Zayed. Au centre de leur rencontre, la participation des Émirats arabes unis à un fonds que souhaite lancer la France pour investir dans les entreprises nationales et stabiliser leur capitale. Marie Vienneau, bonjour.
Bonjour.
Alors ce fonds géré par la Banque publique d'investissement qui répond au doux nom de lac d'argent vise à réduire l'emprise de ceux qu'on appelle les investisseurs activistes en France. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, Marie ?
Eh bien, les fonds activistes sont surtout présents aux États-Unis, mais ils se renforcent en France au point d'ailleurs que la Commission des Finances de l'Assemblée y a consacré un rapport cet automne. Un fonds activiste, c'est un fonds qui investit dans une entreprise dans le but de changer sa stratégie, même s'il est seulement actionnaire minoritaire. Les stratégies employées pour cela sont variées, mais elles ont pour point commun de souvent déstabiliser les entreprises qu'elles visent. Il y a 10 mois, le ministre des Finances français avait dit réfléchir à ce qui permettrait de résister à cette nouvelle tendance. Au final, le projet c'est donc celui-ci, un fonds moitié public, moitié privé, géré par BPI France, la banque publique d'investissement, qui pourrait prendre des participations dans le capital des entreprises françaises, dans le but de stabiliser leur actionnariat en leur garantissant que les placements effectués seront sur un horizon long. C'est un fonds de protection en quelque sorte, mais Bercy ne le présente plus ainsi. À terme, ce fonds lac d'argent serait doté de 10 milliards d'euros. Des assureurs français doivent y participer à hauteur d'un milliard pour le fonds émirati. En revanche, on ne connaît pas encore le montant, mais il serait significatif selon Bercy. Rappelons que ce fonds souverain d'Abu Dhabi, c'est-à-dire que c'est un fonds d'État, dispose de 700 milliards de dollars. Il est dans les 3 plus grands fonds souverains mondiaux.
Merci Marie Vienneau. Personnage inclassable aux multiples facettes, journaliste, patron successif de plusieurs chaînes de télé et de radio, mais aussi patron du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Hervé Bourges, est mort hier à l'âge de 86 ans. Notons qu'outre ses rôles imminents donc dans les médias, Hervé Bourges était aussi un militant anticolonialiste, amoureux de l'Afrique et fervent défenseur de la francophonie. Les débats sur la réforme des retraites ont repris ce matin pour une deuxième semaine devant l'Assemblée nationale, avec notamment la menace toujours plus pressante d'un possible usage du 49-3, étant entendu que dans l'hémicycle, personne ne veut pour l'instant en assumer la responsabilité. En clair, quand la majorité accuse la gauche de l'y emmener par l'obstruction, la France insoumise affirme pour sa part que les marcheurs le préparent en surjouant le chaos. Et toujours pour évoquer donc ce débat sur la réforme des retraites, invité de la rédaction aujourd'hui, Erwan Balanante, député MoDem du Finistère. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Première question toutefois, monsieur Balanante. S'agissant de la campagne des municipales, en l'occurrence à Paris, où Agnès Buzyn a finalement remplacé au pied levé Benjamin Griveaux lundi dernier, il se trouve qu'elle était depuis longtemps la candidate mise en avant par un certain François Bayrou. Sans succès d'ailleurs jusque-là. Et puis finalement, le plan B est donc devenu le plan A. Faut-il y voir un retour en grâce du leader de votre parti ou disons un signe de ce qu'Emmanuel Macron devrait plus souvent l'écouter ?
Ouais, je pense qu'on a toujours intérêt à écouter les gens qui ont de l'expérience, et François Bayrou en a. Et il connaît bien Paris. Il connaît bien Paris parce qu'il a une carrière à Pau, certes, mais il a été député longtemps à Paris. Il s'est intéressé aux questions parisiennes. Et je crois qu'il avait effectivement une intuition qui s'avère être très bonne, puisqu'on voit aujourd'hui que Agnès Buzyn rencontre un succès dans ses déplacements et puis un succès aussi dans les premiers sondages et les premières enquêtes d'opinion. Donc oui, on a toujours, je crois, intérêt à écouter les gens qui sont dans un paysage depuis longtemps et qui connaissent bien les situations.
Question de Stéphane Robert.
Concernant la réforme des retraites, le 49-3, qui permet donc au pouvoir exécutif de faire adopter un texte sans débat, c'est inéluctable selon vous ?
Bah moi j'espère que non. J'espère qu'on va pouvoir l'éviter, et je pense qu'il y a encore des chemins pour l'éviter. Aujourd'hui, on a il doit rester 34 000 amendements, essentiellement de la France Insoumise et du groupe GDR, des communistes. Parmi ces amendements, on a seulement 6800 amendements uniques. Les autres sont des copies qui permettent de parler, de prendre la parole et de démultiplier la parole et de dire plusieurs fois la même chose. Et parmi ces 6800 amendements, on a un certain nombre d'amendements, et vous l'avez vu, qui sont des amendements d'ordre rédactionnel, parfois un peu taquin, parfois un peu avec des tentatives d'humour, mais qui, ne font pas vraiment office d'avancée ni légistique ni législative. Donc je pense que on a une volonté qui a été assumée et qui a été dite, ils l'ont dit, qui voulait faire de l'obstruction. Ils sont dans cette obstruction, et nous aujourd'hui on est en défaut de pouvoir expliquer ce projet aux Français, et dans une grande frustration. Moi je suis extrêmement frustré dans l'hémicycle, j'y suis depuis lundi, et on ne peut pas expliquer la réalité de notre projet aux Français, parce que par des mesures, par des pratiques dilatoires, de l'obstruction à certains moments, des interruptions de séance, des rappels au règlement, on se retrouve pris dans une sorte de journée sans fin. Vous voyez le film la journée sans fin avec Bill Murray, où tous les jours on reprend les mêmes sujets. Tous les jours, en plus, c'est à peu près cyclique, c'est toujours au même moment. On reprend la même chose, et ça fait 7 jours que tous les jours, la journée sans fin continue. Et moi, j'aimerais qu'on puisse avancer, j'aimerais qu'on puisse enfin aborder les articles de fond qui parlent d'un certain nombre de sujets qui intéressent les Français.
Alors, est-ce que pour autant, il faut précipiter les choses et utiliser ce 49-3 pour finalement clore les débats ? Est-ce que ça ne consacrerait pas un affaiblissement du Parlement ?
Ben, là, de toute façon, on est dans un cirque qui affaiblit le Parlement. Pour les Français qui regardent, c'est quelque chose d'extrêmement... Le Parlement, c'est une belle maison. C'est une maison qui fait un travail, d'enquête, qui fait un travail légistique, qui travaille sur les textes. Et là, on est en train de faire du cirque. Alors oui, ça affaiblit le Parlement. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra saisir le 49-3 ? Moi, j'espère que non. J'espère qu'on va pouvoir faire sans. Et il y a un chemin pour faire sans, c'est que les Insoumis et les GDR suppriment leurs amendements répétitifs, arrêtent de sous-amender. Quand vous faites 20 sous-amendements sur un amendement, vous privez la parole pendant 1h30 à la majorité. Et moi, l'autre jour, j'ai demandé la parole, j'ai parlé 3 heures plus tard. Donc voilà, y a un chemin pour éviter ce 49-3. Le gouvernement n'en veut pas, nous en voulons pas, la majorité n'en veut pas, et visiblement l'opposition n'en voudrait pas. Mais on a bien compris le jeu de dupes, c'est qu'ils veulent nous y amener pour dire ensuite, crier à la dictature, etc., etc. On connaît parfaitement le procédé.
Ça fait des semaines que se manifestent de nombreuses oppositions à cette réforme. D'abord dans la rue, maintenant c'est à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle a été suffisamment préparée, cette retraite ?
Moi je pense que ça a été préparé. Mais on se retrouve sur ce sujet-là, un sujet extrêmement complexe, sans doute le sujet le plus complexe de la vie politique française, la question des retraites et la question du moment où on arrête de travailler pour chacun et chacune des Français. C'est extrêmement...
Elle continue à inquiéter, cette réforme.
C'est inquiétant. Et puis, vous rajoutez là-dessus le fait que depuis 20 ans, on dit aux jeunes générations, moi j'ai 49 ans, on m'a dit « tu n'auras pas de retraite ». Donc on est dans une situation où, il y a de l'angoisse sur la question des retraites. Donc, quand il y a de l'angoisse, c'est extrêmement facile de distiller des messages anxiogènes. Extrêmement simple. 2, c'est un sujet extrêmement technique. Moi, je peux vous assurer que depuis le début du mandat, moi, je suis pas un spécialiste des affaires sociales. Je suis plutôt commissaire aux lois. Je travaille sur les affaires sur constitutionnelles, pénales. Mais j'ai quand même fait l'effort de me plonger dans le texte. Bon, c'est un texte extrêmement compliqué. C'est compliqué. Donc, deux, technique. Et trois, dernier élément, on prend des décisions qui ne sont pas des décisions pour tout de suite. Quand vous décidez quand vous faites le prélèvement à la source, décide le prélèvement à la source, à partir du 1er janvier 2018, les Français voient effectivement, et ça marche, et voilà. Et là, on est dans une configuration où effectivement, c'est extrêmement compliqué d'expliquer. Moi, je ne crois pas qu'on est mal préparé. Peut-être qu'il y a eu un déficit de pédagogie, mais cette pédagogie est extrêmement difficile à faire parce que des messages anxiogènes n'ont pas arrêté d'être distillés par un certain nombre d'opposants à cette réforme.
Et on terminera par ces mots. Merci Erwan Balanante, député Modem, je le rappelle, du Finistère, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi, avec du soleil sur la moitié sud, à l'exception de la Côte d'Azur et de la Corse. Partout ailleurs, la grisaille s'imposera. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pomé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.